Motorcycle mama, won't you lay your big spike down?
MotoZef, une émission radio où on parle moto.
Motorcycle mama, won't you lay your big spike down?
Aujourd'hui, portrait d'un motard par Philippe Oppé.
Always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay your...
Nous allons commencer en fait cette interview avec Laurent qui a... nous a accueillis aujourd'hui en fait pour une réunion de départ de moto. Quand je suis arrivé, j'ai vu toutes les motos sur le plateau. Voilà, alors c'est quoi cette réunion?
Les motos sur le plateau, c'est en fait c'est nos motos qui partent en Pologne, à Varsovie, pour se faire mettre dans un container qui lui-même partira à Hambourg et de Hambourg prendra un bateau pour aller à Valparaiso.
Ok, donc ça s'est fait chez... En fait, tu as récupéré toutes les motos chez toi parce que vous étiez de...
Ouais, on les a... comme on est trois, il y avait une moto donc ici à Saint-Sulpice, une à Orléans puis une autre à Carcassonne. Pour gratter un peu les prix, en fait, on a proposé de les regrouper toutes les trois ici, et ce qui nous a permis aussi de passer le week-end de préparation et à se mettre d'accord sur le chargement, la répartition et s'échanger les dernières recommandations.
D'accord, et ça physiquement, en fait, les motos, elles sont dans une camionnette, sur une remorque.
Physiquement.
Parce qu'on les aime bien, nos motos, on les chouchoute.
Ouais, là, on a été un peu déçus parce qu'elles sont sur un plateau. Donc, on a passé notre samedi à les nettoyer pour qu'elles soient nickel, parce qu'on nous a conseillé d'avoir des motos très propres pour faciliter les passages en douane et rassurer les douaniers. Et puis là, là elles sont sur un plateau, il pleut, et le camion va faire... 2 ou 3 000 km avant d'arriver à Varsovie sur les routes. Donc,
peut-être une étape avant Varsovie.
Il y a une étape à Turin et une autre en Tchéquie. Donc la propreté sera peut-être plus aussi bonne à l'arrivée que ce qu'elle était ce matin.
Ok, pour cette partie, donc on a vu avec Guy, par exemple, un petit peu le périple. Hein, donc on va pas revenir sur Valparaiso et compagnie. Donc on va parler de toi un peu plus. Voilà. Okay. Donc Laurent, donc pour situer ton âge, tu n'es pas obligé de le dire précisément.
Non, je suis comme mes collègues, hein, on est là. Je suis à peine plus jeune qu'eux.
Un quinca encore?
Ben oui.
Bon,
tout à fait.
Voilà, ta profession, sans être forcément très précis.
Moi, je suis ingénieur en bureau d'études.
Ingénieur en bureau d'études. Ok, la moto avec laquelle tu roules aujourd'hui?
C'est une magnifique Multistrada Ducati.
Ducati. Ah, t'es le seul du groupe, là, parce que c'est plutôt...
Du groupe et...
GS.
J'ose pas dire
BMW.
Du monde, parce que à chaque fois qu'on fait une sortie un peu tout terrain, je suis très souvent tout seul. Parmi des milliers de GS, il y a souvent quelques Africa Twin et KTM, et des Ducati, c'est rare.
Oui, puis ça fait moins Playmobil, parce qu'ils se ressemblent beaucoup quand même.
Les GS?
Oui, les GS.
Oui, elles se ressemblent toutes, et bon, puis honnêtement, c'est pas beau.
Voilà.
Probablement très efficace, mais
alors,
c'est pas beau.
Tu as choisi une Ducati pour un côté esthétique ou
Bien sûr.
D'autres raisons que l'esthétisme, parce que c'est déjà important.
Maintenant, pour l'esthétique, le bruit, les sensations de conduite. Et puis, je préfère les mécaniques italiennes à la mécanique allemande.
Une mécanique italienne, qu'est-ce qui ressort, par exemple? Comment on reconnaît une italienne au niveau mécanique?
Ça fait un beau bruit.
Le bruit, et ça s'explique par quoi, ce bruit?
Parce que je pense que les Italiens ont une fibre esthétique, enfin, comme tous les Latins, c'est-à-dire que les Germains et les Saxons n'ont pas. Eux, ils sont mécaniques pure et dure, et il y a moins d'hédonisme chez eux, c'est l'efficacité avant tout.
D'accord. Autrement, à part cette Ducati, est-ce que tu as eu d'autres motos avant, tu as commencé quand?
J'ai commencé il y a longtemps, avec un 125, une mobilette, un 103 Sport.
103, parce que tu es...
Sport, attention.
Tes collègues tout à l'heure, eux, ils étaient chapis, je sais plus.
J'avais un haut de gamme de mobilette. Et puis, après j'ai dû avoir un 125 KE avec un moteur de KX, un truc à emmerde.
Kawasaki, donc.
Kawasaki, oui. Distributeur rotatif, à l'époque, c'était un truc un peu marginal. Et après, que j'ai revendu au bout d'un certain temps, parce que j'avais trop de problèmes, je suis passé sur un 125 Honda, donc du grand standard. Mais trop standard, où j'ai tout modifié, mais tiens, changé les... J'ai rajouté des roues en alu, un kit 175, des réservoirs en plastique. J'ai dépensé une fortune pour rien. Puis après, j'ai eu pas mal de motos, mais essentiellement tournées enduro. Donc beaucoup que j'achetais dans des caisses par des gars qui avaient essayé de les réparer eux-mêmes, qui n'y arrivaient pas. Donc je les remontais pour les revendre un peu plus cher que je les achetais. Donc j'en ai fait pas mal comme ça. Et puis, après, j'ai dû me marier, avoir des enfants, et il y a eu un grand trou.
Ah, toi aussi, tu as vécu une période d'abstinence.
Puis en parallèle des motos aussi, j'ai fait quelques courses de Solex, qui étaient intéressantes parce qu'il n'y avait pas besoin d'argent.
Et ta compagne nous a parlé d'un périple en Solex.
Ouais, le Solex était large. Je faisais des courses essentiellement des endurances de 24 heures, quelques courses de vitesse quand j'étais étudiant du côté d'Orléans. Et puis une année, on est parti une dizaine là. Mmh. Enfin, on est parti une dizaine, pas forcément arrivé à 10, mais on est parti une dizaine d'Orléans en Angleterre. Alors on n'a pas été très loin en Angleterre parce que ça allait pas aussi vite qu'on l'espérait. On en a perdu un ou deux en route, mais bon. C'était un voyage.
D'accord.
Pour notre premier voyage en deux roues à l'étranger.
Donc le Solex, ça c'était pendant la période d'abstinence.
Et donc après, non, c'était quand j'étais étudiant à Orléans.
Parce que tu disais que tu faisais des courses en Solex.
Bah, c'était à peu près en même temps.
Ah d'accord, ok. Et tu as parlé d'une période d'abstinence donc, où tu n'as plus eu de moto.
Ouais, bah, c'est quand il y a eu les enfants, donc on a un peu changé les priorités. Quoi.
Mm-hmm.
Ça, de fait, hein.
Ouais.
J'avais toujours une moto, mais elle a dû passer 10 ans dans une grange et j'ai dû faire... en 10 ans, elle a dû faire 1500 km, donc au bout d'un moment...
Et tu as repris donc la moto
Et j'ai repris, bah, quand les enfants ont commencé à plus vouloir partir en vacances avec nous, je me suis dit, bah, tant pis pour eux. Et donc là, j'avais une 350 TT, bon, qui était bien, mais je me suis dit, le tout-terrain, c'est de plus en plus difficile. Et puis dans notre pays, au relief quand même assez terne.
Donc pour situer, on peut dire, en fait, tu habites à Saint-Sulpice, dans le Loir-et-Cher.
Saint-Sulpice de Pommeray, dans le Loir-et-Cher, sur le plateau. C'est pas encore la Beauce, mais ça y ressemble beaucoup.
Oui, on s'approche, ouais. C'est le Gâtinais, dit-on.
Voilà. Et à un moment, bah, j'avais un copain qui avait des routières, donc je me suis dit, pourquoi pas revendre mon TT qui roule plus pour acheter une routière, au moins je pourrais aller travailler avec, quoi. Puis là, j'ai fait le tour, et puis après avoir fait le tour des concessionnaires, essayer des motos de copains, bah, j'ai acheté un Monster Ducati.
Carrément directement.
Ouais, mais un petit, hein, un 800.
Un 800, d'accord.
À l'époque, une 1000, ça me paraissait énorme.
Mais à part ce copain-là qui roulait avec des routières, tes premiers émois en moto, qu'est-ce qui a fait que tu t'es branché en moto? C'est, je sais pas, un oncle, un frangin?
Ah ben non, parce que dans la famille, je suis tout seul.
Ah.
Ben, je sais pas. D'autant plus que ma première mobilette, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est mes parents qui m'ont acheté parce que je me suis retrouvé à 10 km du lycée et que je savais pas comment y aller. Donc ils m'ont dit, on va t'acheter une mobilette parce que se lever à 6h du matin pour arriver en cours à 9h...
C'est rare parce qu'aujourd'hui, les parents freinent plutôt.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bien que nous, on n'a pas freiné nos enfants, mais il n'y en a aucun que ça intéresse.
Ouais, pareil. Et le passage mobilette-moto, là, c'est pareil, je sais pas.
Bah après la mobilette, je sais pas. C'est que j'ai eu des copains branchés. Un peu fou, qui n'arrêtait pas de bricoler. Puis, comme j'aime bien bricoler aussi, que ce soit, j'avais tout démonté sur mon vélo, bah, j'ai fait pareil sur la mobilette. Hein. Et puis, au bout d'un moment, bah, la mobilette, hein, une fois qu'on a fait le tour, bah, pourquoi pas une 125 ? Et surtout qu'à l'époque, le permis, hein, on faisait 6 heures de cours, on passait un examen théorique, et puis on avait le droit de conduire une 125.
Ouais, pratiquement.
Sans savoir, en fait.
Alors, après cette première Ducat
Après cette première Ducat que j'ai dû acheter vers 40 ans, on a fait. C'est pareil, au début, on roulait un peu plus. Mais quand on sortait du département, c'était un exploit.
Oui, les enfants, fallait quand même les avoir.
Ouais, il y avait encore les week-ends, les machins, et puis j'étais pas trop dans l'esprit voyage, donc on sortait, puis on disait c'est dommage d'avoir une si belle moto et puis de faire 1000 ou 2000 km dans l'année. Donc on a commencé à faire des sorties sur un week-end, puis on allait de plus en plus loin, on a fait des week-ends à l'Ascension, on était jusqu'en Bretagne, puis à un moment je me suis dit avec une moto comme ça, parce qu'on partait à deux sur un Monster. C'était vite pénible.
Oui, donc pour les gens qui ne seront pas spécialistes, en fait, c'est une moto plutôt sportive.
C'est un roadster. Alors, je sais pas si ça explique plus.
Non.
C'est la référence du roadster, d'ailleurs.
Oui.
Donc, c'est une moto dépouillée, plutôt sportive. Sachant que chez Ducati, elles sont toutes plutôt sportives, mais qui est plus axée plaisir de conduite.
Mm-hmm. Donc un guidon bas,
position... guidon plutôt bas, position sur l'avant, un moteur un peu spécial qui marche pas en dessous de 3000.
Ça veut dire pas souple, en fait?
Pas du tout souple, mais des sensations de conduite excellentes. Par contre, bon, quand on roule une heure ou deux, on en a plein la tête, plein les bras, on a mal partout.
Ouais.
Donc c'est très, très amusant à conduire, mais un peu fatigant.
La passagère ne se plaint pas trop de ce...
Non, c'est pas trop...
amoureuse ou...
Ouais, c'est pas trop plein, mais fatiguée autant que moi.
D'accord. Les bagages aussi, peut-être?
Les bagages, on s'en passe, hein, donc il fallait qu'il y ait une voiture qui suive. Parce que c'est pareil, il y a un côté esthétique, et on peut pas mettre des sacoches sur ce genre de moto. C'est contre nature. Donc, au bout d'un certain temps, on s'est dit, on voulait aller plus loin. On s'est dit que cette moto, c'est pas possible. Donc, j'ai acheté une moto Guzzi. C'est toujours italien, très à la fois très éloigné et très proche de Ducati, parce qu'il y a toujours un semblant de côté sportif. Par contre, c'est un moteur à l'ancienne, qui est plus un moteur de tracteur.
Oui, je crois que c'est une des plus vieilles marques de moto.
Une des plus vieilles marques, oui, qui a brillé en compétition il y a très longtemps. Et qui a été une grande marque, peut-être avant la guerre, qui survit maintenant, enfin, au sein du groupe Piaggio. Et qui a sorti un 1200, qui a une durée de vie assez courte, ça a dû durer 10 ans, donc j'avais acheté ça. La version sport, alors sport chez Guzzi, c'est tout l'opposé de Ducati, c'est... Ça reste très, très tranquille.
Moto Guzzi, c'est un peu la BM italienne. Hein.
Exactement, c'est un peu la BM italienne, c'est la même cylindrée que les BM, c'est des motos à cardan, ça a beaucoup de couple, mais ça a toujours le petit côté dynamique et bruyant, et bruit d'une italienne. On retrouve le côté italien, c'est pas très fiable, ça a toujours des petits problèmes. Une Guzzi, c'est réputé pour son manque de fiabilité.
Oui, il y en a qui aiment ça même.
Hein. Ça fait partie du plaisir. Lors d'un voyage, j'ai vu un Autrichien qui était très content de me voir et qui trouvait la moto superbe, et qui m'a dit ça, au moins c'est une moto qui a du caractère. Et donc on est parti, on a fait quelques voyages, là on commençait à aller loin, j'ai dû aller en Espagne, là, on a fait les Bardenas, en Italie, faire les Grands Lacs, en Autriche, en Suisse, on était jusqu'en Écosse. Et malgré sa fiabilité, on est parti, on est toujours revenu. On a eu des petits soucis, mais qui n'empêchent pas de rentrer, quoi.
D'accord, et après, tu es passé, non ?
Bah après, on commençait à penser plus loin, et on voulait aller au Maroc. Et quand j'avais fait l'Espagne, j'ai fait un peu de piste, et je me suis rendu compte qu'une Guzzi, c'était un peu camion, c'est lourd. Et ça pas, enfin, c'était pas du tout adapté à des mauvaises routes ou des chemins. Enfin, c'est un roster, hein, encore. Et donc là, je me suis dit, il faut un truc beaucoup plus polyvalent. Donc j'ai racheté la Multistrada. Et j'ai racheté dans l'idée d'aller au Maroc.
Donc, alors si je comprends bien, c'est toujours une moto italienne.
Toujours.
Mais plus confortable.
Ben, Multistrada, comme son nom l'indique, c'est une moto supposée polyvalente. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une concurrente de la GS, mais en fait c'est un gros trail qui est à tendance plus routière qu'une GS, mais qui est beaucoup plus polyvalente, qui permet à la fois de faire quelques heures d'autoroute à 150 et derrière d'enchaîner sur un petit chemin en étant, je dirais, sans trop de difficultés.
D'accord, donc c'est avec cette moto-là qui est montée sur le plateau tout à l'heure que tu
voilà,
vas faire
parmi toutes les GS.
Ce grand voyage, est-ce que tu l'as préparé en dehors de...
Ah ouais, je l'ai préparé, je l'ai commencé à la préparer quand on était au Maroc. On pensait déjà à l'Argentine, on s'est dit on va faire un petit tour pas trop loin pour faire un peu de piste, un peu de montagne, un peu de chaud, un peu de froid.
Rodage.
Voilà, rodage, puis surtout psychologique aussi pour nous-mêmes et nos passagers, pour avoir des terrains non européens ou en Europe... Bon, ça manque de surprise quand même, des fois. Donc il y avait ça. Donc j'ai pris la 950 parce qu'il y avait une grande roue à l'avant, ce qui donne des choix de monde de pneus un peu différentes, puis qu'elle est plus légère et un peu plus maniable qu'une 1200. Puis je me suis dit que 120 chevaux, ça devait suffire.
D'accord. J'ai vu des rayons aussi.
Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, je fais aussi des petites sorties en solo avec Olivier, là, un ami. Qui s'appelle...
Donc en solo, ça veut dire tout seul sur la moto.
C'est ça.
Mais avec des amis.
Ouais, c'est ça, tout seul sur la moto. Où là, on s'est plus orienté tout terrain sur du chemin. Et c'est un peu plus... Bon, c'est de la randonnée toujours, hein, mais un peu plus sportif. Donc on fait ça tout seul. Et là aussi, pour continuer la préparation, j'ai mis des roues à rayons pour remplacer les roues moulées à bâton qui sur des petits chocs, peuvent casser. Bon. Et ça, si ça casse, c'est la fin du voyage.
Hein. Ouais. Donc plus souple, les rayons, là.
Ouais, plus souple, plus fragile, et puis ça peut se réparer aussi.
Plus beau aussi.
Et puis plus... Oui, bien sûr. ça va de soi, donc il y a beaucoup plus de protection sous le sabot, des barres sur les côtés pour quand on tombe, les roues à rayons, oui, je sais pas. Et puis au final, pour l'Argentine, des valises sérieuses en aluminium plutôt qu'en plastique... Enfin, le truc de grand voyageur, quoi, comme on voit dans les films. Hein.
Donc là, t'es prêt pour ce voyage ?
Quasiment. Donc, la moto est prête, en tout cas.
On a vu déjà avec les personnes avec qui tu vas partir, en gros, l'itinéraire, le kilométrage, les problèmes d'altitude. Est-ce qu'il y a le climat politique, on en a parlé un petit peu, actuel.
Ouais, ouais.
Voilà. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses par rapport à ce voyage, par exemple la destination? Parce que Guy nous disait qu'en fait, il avait un peu suivi votre idée, il a été emballé. Donc ah bah oui. Peut-être que toi, tu as eu l'idée de cette destination, pourquoi?
Ça, c'est vieux, on a démarré il y a très longtemps. En fait, c'est Christian qui a eu l'idée. Un jour, il nous a dit, c'est quand on a fait le Stelvio, pour les non-motards.
Ouais.
Il y a des routes, des passages mythiques pour tous les motards du monde. Donc il y avait le Stelvio qu'on a fait en Italie. La route 66 aux États-Unis qui est bien connue, et la route 40 en Argentine qui va du nord complet en Bolivie, là, jusqu'à Ushuaia. Donc on s'est dit, je suis dit comme ça en plaisantant, c'est une route qu'il faut faire. Puis en regardant, en fait, cette route a fait quand même 5000 km. Mm-hmm. Et puis à part de Bolivie et Ushuaia, donc deux destinations inaccessibles directement. Et puis en cherchant, je me suis dit, déjà pour rejoindre la route, on arrive à Buenos Aires. Pour rejoindre la route qui suit la cordillère des Andes, il y a déjà 3000 bornes. En cherchant un peu, je me suis rendu compte que les transporteurs nous déconseillaient tous de débarquer à Buenos Aires parce que la corruption est importante, donc il valait mieux aller à Montevideo qui est de l'autre côté. Mais on avait toujours les 3000 km à faire. Mmh. Et je me suis dit, c'est un peu la galère. La route 40, si on fait les 3000 plus les 5000, on s'en sort pas. Nous, nous pauvres salariés, avec nos 3 semaines de congé...
La 40, c'est une destination long cours. Hein.
Alors en cherchant, en fait, le itinéraire s'est modifié. Déjà, on s'est dit plutôt que d'atterrir à Montevideo, il vaut mieux peut-être atterrir côté Chili. On nous avait conseillé le Chili parce qu'il paraît que c'est le pays le moins corrompu d'Amérique du Sud. Et que finalement, une fois que les motos sont dans le bateau, c'est quasiment le même prix. Donc on s'est dit, on va atterrir au Chili, à Valparaiso. Et puis en regardant, on regardait les Paris-Dakar, les derniers, ceux qui se passaient...
qui se passent plus en Afrique.
Qui se passaient entre la Bolivie, le Pérou, le Chili et l'Argentine. Et en fait, c'est des coins magnifiques. Et puis finalement, on s'est orienté là, donc de Valparaiso, faire le petit tour... Valparaiso, Argentine, on monte tout droit en Bolivie, on fait le Salar de Uyuni, et puis on redescend par Atacama. Et cette petite boucle, on s'est rendu compte qu'en 3 semaines, même en 3 semaines, on n'avait pas le temps de tout faire, donc c'était déjà pas mal.
Ok, ça donne envie tout ça. On va revenir encore un peu plus loin, parce que déjà, ça c'est un beau rêve que tu vas réaliser.
C'est plus un rêve, parce que
tu vas le réaliser.
On a déjà bien dépensé.
Oui, à propos...
On est déjà bien engagé.
Voilà, j'ai pas posé la question, mais allons-y, le budget d'un voyage comme ça...
On a compté 8000 euros par couple.
8000 euros par couple, tout compris?
Tout compris, voyage, transport. Alors, ce qu'on n'a pas compté, c'est la...
La restauration sur place.
Non, avec tout ce qu'on dépensera sur place.
Ouais.
Ce qu'on n'a pas compté, c'est forcément la moto et certains équipements qui sont réutilisables. Puisqu'effectivement, on a acheté pas mal de bricoles... pour équiper la moto, des outils, des machins, des vestes ou des pantalons comme ça, qui sont... C'était l'occasion de les acheter. Mmh. Et on s'est dit, on va là-bas, on va pas être emmerdé par des conneries.
On va continuer après une petite pause musicale, et on va parler des rêves de Laurent en moto.
Déchirait du sang séché sur son jean. Il a coupé le contact, égaré sa machine. Devant la vitrine éclatée de ce snack bar, où son petit rossoir s'est planté dans une sale histoire. Il est entré, ça a jeté comme un grand froid. Il serrait dans ses poings quelque chose qui disait bouge pas. La serveuse en chaleur a fondu sur son plateau. Gros mec à face de porc s'échappait des sueurs dans le dos. Il a dit lève-toi, l'autre était blanc comme un mort. On aurait dit une mouche tombée dans une flaque de gin. Il bavait sur son sort quand l'Angel à la machine. D'un regard lui a fait savoir que son âme allait changer de bord. Ok. Le coup de plein fouet lui a déchiqueté la cervelle. Au loin hurlaient les chiens, soudain sa vieille femelle se jetait sur la dépouille en gémissant, tas de salauds. Ça en faisait déjà sur la terre un de moins, un de trop. Oh, allez déchirer du sang séché sur son blue jean. Il a remis le contact et dans le fracas de sa machine. Il y avait toute la haine, tout le désespoir d'un homme que le destin a trahi et que le diable mène à pleine gomme. À pleine gomme. Ok.
On continue. Donc voilà, alors les rêves, tes rêves, exemple, hein, une moto pour toi, okay, dans, dans l'avenir, dans le futur, ça serait une moto électrique
Oh non. Je sais, c'est la même qui marche mieux, quoi.
Ouais.
Enfin, en plus, c'est, là, c'est plutôt chercher de la polyvalence. Bon, je sais pas.
Ouais.
Je ne rêve pas de moto.
Ouais. Ça y est, tu l'as.
Non, niveau... je vais pas dire que je l'ai, mais c'est, ça serait plus en avoir une par usage.
Ouais, c'est toujours le même problème récurrent, quoi.
Ma Guzzi, je l'ai vendue, mais c'est une grosse erreur, quoi.
Ouais, il faudrait un couteau suisse, quoi. Mais...
Bah, le couteau suisse, puis même les qualités de certaines sont des défauts quand on l'utilise autrement. Nos motos polyvalentes, elles sont très bien, mais elles sont... À la fois, elles sont trop hautes, mais dès qu'on fait un peu de tout-terrain, on trouve qu'il n'y a pas assez de débattement.
Ouais, donc on ne peut pas tout concentrer dans la même moto.
Donc on ne peut pas tout concentrer dans la même, et l'idéal, bah, c'est d'en avoir plusieurs, quoi.
D'accord. Au niveau équipement du motard, est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, par exemple, l'airbag, on en entend parler en ce moment, est-ce que ça te fait rêver l'airbag, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font rêver, comme par, un casque moins lourd
Ouais, à part le poids et tous les problèmes d'allègement, je suis assez conservateur.
Est-ce que, au niveau des services, alors on a déjà parlé de Blablacar pour moto, de location, de moto, de services particuliers, des services d'assurance, de transport de moto aussi, puisque vous allez l'utiliser. Est-ce qu'il y a des choses qui n'existent pas en moto? Ça peut être au niveau d'une expertise technique, au niveau de la mécanique. Alors si j'ai bien compris, tu t'en fais déjà pas mal toi-même.
Ouais,
tu t'arrêtes où et qu'est-ce
dire,
qui
te manque? Le rêve, c'est de pouvoir tout faire tout seul.
Ouais.
Alors, et c'était même l'intérêt dans notre voyage au Maroc, on est parti de la maison.
Ouais.
Là, l'Argentine, on ne pouvait pas. Mais si on avait pu se passer du transport, on s'en serait passé. Donc pour ça, je ne rêve pas de service. C'est tout le rêve contraire, c'est de pouvoir s'en passer, quoi.
Ouais.
C'est l'autonomie.
Mais par exemple, on va parler de Ducati. Ducati, le concessionnaire, ou est-ce que, comment tu te débrouilles à Blois quand tu as besoin d'une pièce spécifique,
ben mal,
de réglage
plus,
spécifique
Soit je vais à Orléans, soit à Tours, et les deux m'ont toujours déçu.
Ouais.
Donc là, je suis toujours un peu embêté parce qu'ils visent des prestations, ils essaient de copier BM, mais... Ils en sont loin et en plus, ils ont pas le, alors ils ont probablement pas le volume qui leur permet d'assurer un bon service, mais c'est pas...
Ouais, donc il manquerait localement quelqu'un de pointu dans le domaine.
Ouais, localement, mais si déjà Orléans autour, il y en avait un de pointu, ce serait bien.
Ouais.
Et déjà, bon, le Ducati a une grosse culture piste, hein. Quand on y va avec sa Multistrada, ils en vendent, mais c'est pas, comme on dit, c'est pas leur tasse de thé, hein.
Au niveau code de la route, j'avais posé la même question qu'aux autres. À chaque fois, j'ai des réponses un peu différentes. Mais, voilà, là, il y a un nouveau décret qui est sorti pour les trottinettes à moteur, donc qui sont elles aussi des deux roues motrices. Voilà, donc a priori, ça va être limité à l'âge de 12 ans. On ne pourra plus conduire à deux et on ne pourra rouler que sur la route et on sera limité à 25 km/h. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces nouveaux usagers motorisés?
Honnêtement, j'en pense rien. Je suis pas trop. J'ai l'impression que c'est des problèmes de Parisiens. Même s'il m'est arrivé d'en voir sur Blois, mais moi, quand je veux voyager léger, je prends mon vélo. Mais tous ces machins avec des moteurs électriques et des batteries, ça même.
Ouais. T'es conservateur, donc.
Je suis très conservateur.
Ok. Au niveau compétences, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, il y a certaines assurances qu'ils proposent, des stages de formation, bah, en tout terrain, tu connais, mais sous la pluie, dans des conditions un peu particulières.
Ouais, c'est en tout terrain.
Des stages de... Ouais,
tout terrain, je connais. J'en ferai bien d'autres, des stages, mais plus orientés gros trail, parce que le tout terrain... Avec 250 kg, c'est pas pareil qu'avec une moto d'enduro de 100 kg.
Ouais.
Parce que nous, on a pas le droit de tomber. Quand on tombe, on ne sait pas relever la moto, et puis ça peut faire très mal aux passagers comme à la moto. Donc c'est plutôt des stages, pas forcément pour aller vite, mais pour passer partout et être en confiance, quel que soit le terrain, quoi.
D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience du tout-terrain quand on revient sur la route, en fait ? Est-ce que c'est un plus, c'est un moins Est-ce que quelqu'un qui conduit du tout-terrain, est-ce qu'il va mieux conduire sur la route ou
je ne sais pas. Je sais que c'est
parce qu'il y a des notions de glisse qui sont importantes
en
tout-terrain. Est-ce que ça peut se reporter?
On ne prend pas beaucoup de virages en dérapage sur la route. Enfin,
ça peut arriver.
Non, par contre, je pense que c'est plus quand on roule à moto et qu'on prend la voiture, on est quand même beaucoup plus attentif.
Oui, c'est vérifié d'ailleurs en termes d'accidentologie.
Bah, oui, parce que en moto, on n'a pas le droit à l'erreur.
On parle sécurité toujours. Alors, on m'a cité à plusieurs reprises les ronds-points situés près des stations-service, par temps mouillé, donc qui sont très dangereux.
Près des dépôts de camions.
Ah, les dépôts de camions.
Ah, bah, j'en connais un. Un fossé, là.
Des endroits où ils stockent les camions.
Bah, les endroits où il y a des transporteurs, d'accord, beaucoup de camions ou de matériel de TP.
Voilà.
Donc, un fossé, là, il y en a, ouais. Il y a deux ou trois ronds-points.
Il est réputé, ce rond-point, oui. Et donc, oui, j'avais pas fait le rapport, moi. C'est donc, en fait, tous ces réservoirs...
Il faut du gasoil et des camions.
Ouais, c'est les réservoirs trop pleins, en fait, qui se déversent, en fait, sur le rond-point dans le virage, quoi, avec la force centrifuge. D'accord. Il y a d'autres bêtes noires pour toi, en termes de sécurité, des endroits...
Il y a tous les gens en voiture qui regardent pas. Ou qui nous voient, mais qui réalisent pas que quand il y a qu'un phare, c'est pas forcément une mobylette, ça peut être une moto qui roule aussi vite qu'eux. Et je me méfie toujours énormément de toutes les voitures.
Est-ce que toi, comme certains, en fait, on attend de voir les gens dans les yeux avant de... Voilà.
Moi, j'attends de voir
la personne
leur tête pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et je ne m'occupe pas des règles de priorité.
Et c'est vrai que ça peut sauver la vie, ça.
Oui, parce que je me suis fait plusieurs fois griller des stops. Donc, je m'attends toujours à ce que la personne passe. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois, ils nous passent devant et qui ne réalisent pas qu'ils nous coupent la route. Quoi.
Alors, un certain temps, on voit quand même les automobilistes avoir un comportement... ils nous laissent passer, ils se garent sur le côté
pour
nous laisser passer.
Ceux qui se garent sur le côté, il y a du bon et du mal. Alors, c'est sympathique de prendre en compte la moto derrière, mais j'ai l'impression que beaucoup d'automobilistes considèrent que les motos doivent aller au-delà des limitations de vitesse. Donc ils se poussent tous pour qu'on puisse aller trop vite.
Mais toujours en roulant à 80.
Voilà.
Donc on est obligé, pour les dépasser...
Moi je ne dépasse pas, mais alors je suis embêté, parce que surtout en été, il y en a, ils se serrent tellement qu'ils roulent dans le bas-côté, et ils nous envoient plein de cailloux et plein de poussière, et on est obligé de les doubler à cause de ça. mais on n'a pas toujours envie
de
rouler vite et de doubler les gens. Des fois, on roule normalement.
Il y a des points que tu voulais peut-être aborder, toi, qui te tenaient à cœur. Pas particulièrement.
Je voulais parler des prochains voyages.
Ouais, du prochain voyage.
Enfin, chaque fois qu'on démarre un voyage, moi, je pense au prochain et je me suis fait toute une liste.
Ah, ouais, bien. Alors ?
Alors, j'ai une liste. Alors, si on part des plus réalistes, là, les prochains qu'on imagine faire, c'est d'aller jusqu'à la Caspienne, en passant par la Roumanie et la Bulgarie.
Donc, la mer Caspienne,
La mer Caspienne. Il y a deux routes typiques en Roumanie, dans l'école, dont je ne dirai pas le nom parce que c'est imprononçable. Mais j'irai bien jusqu'à la Caspienne, comme ça, et puis visiter ces deux pays les plus pauvres d'Europe, mais il paraît très beau. J'aurais bien aussi prévu, plus au nord, parce qu'on supporte mal la chaleur, de faire le tour de la Baltique, en passant par Saint-Pétersbourg. D'accord. Donc, c'est un petit trip. Ces deux-là, c'est des trips, c'est un mois, en fait, qui est compté.
Ouais.
Il y a aussi le Cap Nord, mais c'est un grand classique.
Oui, ce qui fait partie de la liste
tout à l'heure.
Tu ne l'as pas cité, mais ouais.
C'est partie de la liste. Et ça, alors ça, c'est les raisonnables, on va dire. Après, il y a tous les gens qu'on a vus qui sont allés en Iran, nous ont dit que c'était super. Donc, Bon, faut encore que j'arrive à convaincre ma femme. Mais...
Ouais. Oui, l'Afghanistan, il paraît aussi. C'est pas mal. Mais...
Bah, l'Afghanistan, j'ai pas eu beaucoup de monde.
Ouais, moi, je suis un géo.
Mais il y a tous les pays en temps, en fait.
Ouais.
Où il y a, beaucoup attention. À faire. Et puis alors, le rêve, je sais pas si j'arrive à faire, c'est le tour de la Méditerranée.
Ah ouais, belle idée. Ouais.
En partant de la maison, vers l'Espagne, l'Afrique du Nord. Alors, la Libye, peut-être pas tout de suite. Mais... Et puis, bon, la Syrie non plus, pas tout de suite. Mais je dirais, il y a... Tout le berceau de la civilisation, il n'y a que des pays magnifiques là.
D'accord.
On mange bien, parce que le problème souvent dans tous ces voyages, c'est que quand on quitte la France, on est toujours déçu par la nourriture.
Mmh. Certains types de motards en fait sont spécialisés sur les grands prix, les compétitions moto, etc.
Ouais.
Voilà, tu en as fait, c'est pas ton truc.
J'ai été quand j'étais jeune, mais les grands prix, tout ça, enfin. Glandouiller autour d'un circuit, ça me passe beaucoup de temps à attendre, on voit pas grand-chose, on voit bien mieux à la télé. Ça m'a vite lassé, on va dire.
Tu préfères les voyages, les rencontres ?
Je préfère être acteur, quitte à faire des courses. Pour ça, j'ai fait des courses de Solex, parce que je préfère faire une course de patelin qu'aller voir des courses. Ça peut être un but, mais non, en fait, ça m'attire pas.
Ouais, ouais, c'est comme la Mecque pour les musulmans ou Rome pour les cathos, quoi. Il y a des pèlerinages obligés, mais après tout...
Après tout, ouais, enfin obligé, faut vraiment y croire.
Ouais, non, c'est pour faire une petite croix, quoi, sur la liste.
C'est ça. Ben, en fait, les petites croix, c'est plutôt les pays, je dirais, comme la route 40. Bon, la 66, on en parlait, mais on a écarté parce que ça manque un peu d'exotisme.
Ouais, plus on en parle, plus ça paraît cliché, en fait. Un peu.
Ouais, c'est ça. Et puis, bon, les États-Unis, on connaît un peu, puis j'y étais pour le boulot, c'est sympathique, mais oui, ça manque d'exotisme. Là, on est. Je dirais pas, je fais les voyages en Europe, on est plutôt tenté par un peu plus d'exotisme. L'aventure.
Pour conclure, en fait, ton plus mauvais et ton meilleur souvenir en moto.
Ah.
On n'en a pas parlé, mais est-ce que tu as eu des accidents ou des grosses pannes ?
J'ai eu des accidents. Enfin, quand j'étais jeune, en 125, j'ai eu des accidents, mais qui m'ont pas... J'ai eu une glissade, une belle glissade sur une bande blanche, et puis... Enfin, des accidents sans conséquence pour moi, puisque je me suis pas trop fait mal. Je me suis jamais fait mal, d'ailleurs. Est-ce que j'ai des mauvais souvenirs ? Non, je suis... En fait, je m'adapte.
Mmh.
J'ai eu des situations difficiles, mais j'ai jamais considéré ça comme des mauvais souvenirs. Quand on était au Maroc, on s'est pris une tempête de sable, on s'est pris des tempêtes d'eau, on a eu chaud, on a eu froid.
Tu les ranges dans les souvenirs ?
On a... Non, d'ailleurs, j'étais même agréablement surpris, parce qu'en fait, on a... Il n'y a pas eu de crise en se disant, on casse tout, on veut rentrer, on laisse la moto, on prend l'avion, on rentre. Non, on s'est dit, bon, c'est comme ça, faut qu'on s'adapte. On gère et puis on passe à autre chose, quoi.
Donc, pas de mauvais souvenirs, des bons.
Beaucoup de bons, Je me souviens d'une sortie dans le Beaujolais, là où il y en avait des routes magnifiques. Donc on fait beaucoup de sorties à l'Ascension, là, avec un groupe de motards qui grossit tous les ans, d'ailleurs.
Mmh. En France, non, Beaujolais.
En France, oui, c'est sur le... L'idée, c'est d'y aller sur le week-end et puis de faire les 2-3 jours sur place. Au début, à 300 km de Blois, maintenant, comme on a fait le tour, on va un peu plus loin. Mais c'est de rester, trouver un coin sympa en France et puis de...
D'accord, et vous êtes nombreux sur des sorties comme ça ?
Je dis de plus en plus nombreux. La dernière fois, on était 20. Mmh. Il semble que l'année prochaine, on sera 24. Ça commence à être la grosse organisation.
Ok, on va terminer l'entretien là-dessus. Merci Laurent d'avoir partagé ton expérience, tes attentes, tes rêves. Et voilà, on se retrouve un de ces samedis donc pour votre voyage, quand vous aurez l'occasion de nous passer un petit coup de fil, un message. Je passerai aux auditeurs les informations sur votre
périple. D'accord, sans problème. Ouais.
Et puis certainement un retour aussi pour partager cette nouvelle expérience.
Ouais.
Merci Laurent, et
merci.
À bientôt donc.
Ouais.